Alors tout d'abord, un peu le contexte de Ruth et de c'est un livre de Ruth. Hein. C'est étonnant parce que le mot de Dieu n'est jamais prononcé. Hein. C'est étonnant. Pourtant, on parle de Dieu. On aime ce livre, en tout cas, je ne sais pas comment vous êtes par rapport à ce livre, parce qu'il parle d'une romance, hein, c'est un roman entre deux personnes qui s'aiment et qui se marient. C'est différent des autres livres qui souvent parlent de récits guerriers, hein, Josué, tous les récits guerriers hein, qui sont là. Là, des exploits, etc. Là, c'est simplement deux femmes qui sont démunies, donc Ruth et Naomi, hein, sa belle-mère exactement, qui tentent de retrouver le chemin de l'espoir. Hein. Donc, déjà, la manière dont c'est présenté, ça nous amène dans une disposition bienveillante par rapport à ce récit. Mais bien sûr, encore la fin qui est merveilleuse entre le mariage de Boaz et Ruth. J'aurais juste souligné trois choses avant d'attaquer le texte. C'est qu'il y a des étapes subtiles du péché auxquelles nous faisons face tous et qui a poussé à Élimélec. Alors, Élimélec, c'est le personnage central hein, du départ de ce livre, qui nous montre qu'Élimélec, qui était marié à Naomi, eh bien, ils étaient dans une difficulté, comme beaucoup d'Israélites à l'époque, où il y avait la famine. Et à côté, Moab, qui a toujours été l'ennemi naturel d'Israël, eh bien, il y avait de quoi manger. Enfin, il y avait la possibilité de se restaurer, alors qu'en Israël, c'était la famine. Et donc, il a pris une décision qui, en apparence, était raisonnable pour sa famille. Hein, et là, je m'adresse aux chefs de famille qui sont là ce matin. Il y a une responsabilité de prendre soin de sa famille. Et donc, Élimélec a décidé de quitter Israël et d'aller à Moab. Donc, dans le pays ennemi, mais en espérant qu'il puisse eh bien, bénir sa famille. Or, quand il arrive là-bas, ses deux fils meurent. Déjà, vous voyez, ça ne commence pas bien. Hein. Au lieu de la bénédiction, il a deux fils qui meurent. Et donc, il laisse les deux belles-filles sur le carreau. Enfin, sur le carreau. Voilà, ils doivent se débrouiller à l'époque. Hein. C'est quand même les hommes qui travaillaient, etc., dans les champs et autres, la chasse. Et donc, il y a deux belles-filles qui sont là, donc Ruth et Orpa. Et elles ont besoin de subvenir à leurs besoins. Donc cette famille, donc déjà, elle arrive dans un pays étranger, un pays hostile à Israël, dans un endroit démuni. Élimélec, ça veut dire mon Dieu est roi. Or, voyez-vous, si c'était son roi, il aurait dû rester en Israël. Hello? Voilà, il aurait dû faire confiance, il aurait dû faire, bien sûr, il n'y a qu'un faucon, une fois que c'est fait, on dit, il n'y a qu'un faucon, il fallait qu'il, mais il ne l'a pas fait, il l'a pas fait. Donc, vous voyez, le péché est subtil, il nous touche dans les racines de nos besoins les plus primaires pour nous envoyer à l'étranger. Et surtout des mariages mixtes. Vous voyez, les mariages mixtes, ses fils se sont mariés avec des Moabites. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas israélites. Hein. Donc, Ruth et Orpa étaient des filles païennes. Et donc, je pense qu'il y a eu un manque de perspicacité de la part d'Élimélec hein, de faire ses choix d'aller à Moab. Vous avez le récit dans Deutéronome 28, 15, parce qu'il a brisé l'alliance qu'il avait faite avec Israël pour aller dans un pays étranger. La deuxième chose qu'il faut remarquer sur ce livre, c'est que malgré tout cela, Dieu manifeste sa grâce envers Ruth. Ruth, contrairement à Orpa, sa sœur, enfin sa belle-sœur, Ruth a décidé de rester avec Naomi, qui elle, israélite, hein, mais qui voulait retourner en Israël, parce qu'elle n'était peut-être pas d'accord avec son mari, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas. En tout cas, elle voulait retourner, malgré les difficultés de la famine en Israël, elle voulait retourner en Israël, à son pays d'origine. Et Ruth s'est positionnée, disant, je vais te suivre, je ne te quitterai pas, je serai fidèle. Donc elle a choisi de son paganisme moabite de devenir israélite. Par contre, sa belle-sœur, non. Sa belle-sœur est restée dans le pays de Moab. Déjà, là, ça nous parle, vous voyez, dans ce que nous, en tant que pécheurs, eh bien, est-ce que nous nous confions à notre origine, notre tribu, notre origine familiale, etc., notre langue, notre nation, ou est-ce que nous voulons changer? Il fallait qu'elle change. Il fallait qu'elle décide d'aller dans un autre pays, une autre façon de vivre, une autre façon de croire, une autre façon, voilà, tout à fait différente. Et là, ça nous parle justement de la conversion. Ruth s'est convertie, convertie pour devenir une fille d'Israël. Naomi, qui est rentrée dans Israël, elle a changé de nom. Elle s'appelait plus Naomi, elle s'appelait Rama. Ça veut dire amertume. Elle était dans l'amertume. Vous voyez, c'est une femme qui avait perdu son mari, qui avait perdu ses fils, et du coup, elle est rentrée, mais elle est rentrée amère. Elle n'est pas rentrée dans la joie. Et ça nous arrive aussi, et surtout après des épreuves, après des difficultés qu'on a vécues. Le Seigneur le sait. Et on est dans l'amertume. Mais le Seigneur fait grâce. Il a fait grâce, malgré tout cela. À Naomi et à Ruth. Elle n'a pas d'ailleurs donné des bons conseils à sa belle-fille. Si vous regardez le texte, elle a plutôt dit à sa belle-fille de séduire Boaz, vous voyez, par les moyens humains, quoi, comme sait faire une femme. Et en fait, elle n'a pas suivi les conseils de sa belle-mère. C'est là qu'on voit Ruth, une femme de valeur, une femme qui a des valeurs, une femme qui ne se laisse pas entraîner, même par les conseils de sa belle-mère, et pourtant sa belle-mère c'était tout, hein, elle avait tout choisi, eh bien non. Et d'ailleurs, Boaz l'aura remarqué. Il a dit ça, c'est une femme de valeur, une femme qui reste sur ses positions et qui n'en bouge pas. Et Ruth a été bénie parce qu'elle a eu un héritier. C'est qui cet héritier? Pardon? Il s'appelait comment l'héritier? Il ne s'appelait pas David. Hein. Il n'a pas eu David. Obed. Obed. Mais Obed, effectivement, était le grand-père de David. Et donc le grand-père de Jésus. Enfin, l'arrière-grand-père de Jésus. Hein. Donc en fait, vous voyez, c'est une grâce absolument incroyable de démarrer une lignée qui a donné Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, notre Sauveur. Donc, vous voyez, la grâce pour une personne comme Ruth, qui est appuyée sur des valeurs, qui ne bouge pas, malgré les conseils voilà, qui sont douteux de la part de sa belle-mère pour y arriver, pour manipuler un petit peu Dieu, n'a pas besoin de manipuler Dieu. Dieu, quand il a décidé quelque chose et qu'on lui fasse confiance, tout dépend de nous, hein, parce que Dieu peut tout faire, on le sait bien. Il a créé l'univers, il peut tout faire. Mais nous, nous sommes fragiles. Et c'est un peu comme Jacob, vous vous rappelez, hein, Jacob, il manipulait les choses. Hein. Il a dû passer par des épreuves hein, avant de revenir et devenir Israël. Il a changé de nom. Bien là, c'est pareil. Mais Ruth, elle est restée fidèle. Elle est restée droite dans ses bottes, comme on dit. Donc, elle a donné naissance à Obed. Le fils de Boaz et de Ruth pour une destinée absolument extraordinaire. Donc ce livre se termine par le mariage de Boaz et de Ruth et la naissance du fils d'Obed. Le livre d'ailleurs se situe au moment des juges, c'est pas au moment des rois. Donc il n'y avait pas encore de roi. Il y avait des juges en Israël. Et vous savez, la Bible dit que dans le temps des juges, les gens faisaient ce qui leur semblait bon. C'est-à-dire, ils faisaient voilà, ce qui leur convenait. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ont poussé John Wimber, qu'on a suivi quand il était venu en Angleterre, ils l'ont fait venir en France, espérant qu'il change le destin de la France, tellement il était rempli de dons spirituels, John Wimber. Et c'est vrai qu'il a amené un réveil en Angleterre. Ça, c'est indéniable, l'Église anglicane a complètement été réveillée par John Wimber. Et à force de pousser, de pousser, de pousser, il est venu. Et la première chose qu'il a dit, moi j'étais là à la réunion quand il s'est exprimé, il a dit: Vous êtes en France comme au temps des juges, chacun fait ce qu'il veut. Ah, oh, les pasteurs, ils ont tiré une tête, toute la salle s'est refroidie. Mais c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas vaincre quand on fait ce qu'on veut. Il faut suivre des leaders, il faut suivre des personnes que le Seigneur met en place et qui tirent en avant. Amen. Voilà, je suis très honoré d'avoir Jean-Marc avec nous ce matin. C'est un leader, c'est quelqu'un qui sait écouter Dieu et qui suit, hein, que ce soit la Gerbe ou le PTCE. On a besoin de leaders. Hein. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils s'enorgueillissent, ces leaders. Mais le leadership est quelque chose que Dieu donne à l'Église, que Dieu donne pour établir des choses et pour les faire avancer. Eh bien, voilà, dans ce temps-là, eh bien, c'était un esprit général, on faisait ce qu'on voulait, mais petit à petit, eh bien, Boaz et Ruth sont devenus des leaders dans leur génération. Ce livre est une magnifique illustration de la rédemption, du rachat. D'être racheté. Le Rédempteur, le Seigneur Jésus est notre Rédempteur. Le Seigneur Jésus a beaucoup de titres. Hein. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le Sauveur, il est le Rédempteur. Alors c'est un mot un peu bizarre, Rédempteur, mais on va essayer de le décortiquer un petit peu. Jésus, ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il a payé une dette. C'est ça, le rachat de la rédemption. Il a payé une dette pour nous libérer du pouvoir du péché qui s'exerce, qui s'est exercé et qui continue à s'exercer sur nos vies. Et nous serons toujours à la merci de cette pression. Ce qu'il faut, c'est ne pas succomber à la pression. Ce matin, avec Joy, dans la voiture, on discutait un petit peu et je lui ai dit, mais c'est quoi le problème de Caïn? Caïn, il a tué son frère. Quand Jésus, quand Dieu est venu le voir, il a dit: Où est ton frère? Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, vous parlez trop en même temps, donc. Voilà. Autrement dit, je ne sais pas. Je sais pas. Tu as vu quelque chose, toi? Adieu, ah oui. Ah ben oui, il n'est pas là. Et il a fait l'idiot, quoi. C'est ce qu'on appelle le déni. Est-ce qu'on n'est pas souvent dans le déni? Un des gros problèmes, hein, de l'être humain, de nier tout de suite. Ah mais non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est... Voilà. Suis-je le gardien de mon frère? Donc je ne sais pas du tout où il est. T'as qu'à le chercher. Vous voyez, c'est un mépris de Dieu. Hein. Vous voyez, Dieu, il sait tout. Et de lui répondre comme ça, c'est un mépris de... Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit en retour, après cette réponse insolente, on peut dire? Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est un peu le sujet de ce matin. Il a dit: Garde-toi. Garde-toi. Vous voyez, il l'a mis en garde. Il était attention. Là, déjà, c'était un mauvais point, là. Hein, il était mal parti. Mais garde-toi. Parce que le péché te couche à ta porte. Parce que le péché se couche à ta porte. Rien que cette réponse, c'est une réponse de péché, il se couche à ta porte. Voyez-vous? Et si tu ne domines pas sur le péché, tu vas être vaincu par le péché. Amen? Eh oui. Et c'est quoi cette porte? C'est quoi cette porte? Penser, ouais, nos cœurs, Est-ce que c'est une porte physique? Vous pouvez prendre la cloche, vous pouvez l'ouvrir. C'est quoi comme porte? Spirituelle. Voyez-vous, il y a des principes physiques. C'est la physique qui est l'objet de la science, hein, pour découvrir comment fonctionnent les choses physiques. Il y a des choses qui sont psychologiques, donc l'âme, nos pensées, nos façons de faire, et des choses spirituelles. Et cette porte-là, c'est essentiellement une porte spirituelle. Elle est aussi psychologique, tu as raison. Mais les deux vont ensemble, vous voyez. Le psychologique et le spirituel sont mêlés. C'est les forteresses dans nos pensées, mais qui ouvrent des portes spirituelles. Parce que les démons, donc ceux qui nous harassent, qui ont le pouvoir sur nous, hein, c'est l'enseignement de Paul, hein, qui l'explique dans Corinthiens, etc. Eh bien, ils amplifient nos erreurs. Ils amplifient. Ils aiment qu'on se vautre dans une erreur, dans un péché, et ensuite, après, ils poussent, ils poussent, ils poussent. C'est pour ça que souvent, il y a des chrétiens même qui ne peuvent pas sortir d'un péché, parce qu'il y a des démons derrière ça. Hein. C'est ce qu'on appelle les puissances spirituelles, qui sont enseignées dans Éphésiens 6 et autres. Donc, pour revenir à cette porte, Jésus dit, attention, Dieu dit à Caïn, il y a une porte, et si ton péché, eh bien, il est à cette porte, et si tu ne domines pas sur lui, dominer, ça veut dire qu'il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Mais pour fermer une porte spirituelle, il faut d'abord se repentir. Il faut d'abord reconnaître qu'elle est ouverte. Non, 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 elle est fermée, non, 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 non. De toute façon, mon frère, je ne sais pas où il est, tu le cherches, tout ça, voilà, vous voyez, il n'est pas concerné, quoi. Mais non, il faut chercher l'origine du blocage spirituel, ensuite se repentir, fermer la porte pour que, eh bien, elle soit pas à tout vent et que les esprits fassent pas ce qu'ils veulent. Dans Ruth, je vous laisserai lire le passage dans chapitre 3, de versets 9 à 18. Ruth avait besoin d'un parent rédempteur. Pourquoi? Parce que la loi d'Israël, parce qu'elle voulait rester en Israël et voulait avoir un avenir aussi en Israël, pas juste rester comme ça, clandestin en Israël, il aurait pu, etc., glaner à droite à gauche. Non, non, elle voulait un destin. C'est une fille de valeur qui avait une envie de servir Dieu dans le pays d'Israël. Et donc il faut avoir dans la vie chrétienne, il faut avoir une ambition de servir Dieu dans l'appel qu'il nous donne. Chacun de nous, on reçoit un appel. Chacun de nous, on est appelé à quelque chose. Ce sont les œuvres préparées d'avance. Il y en a qui croient à ça? Vous avez tous des œuvres préparées d'avance. Donc vous avez un appel. Et c'est à vous de le réclamer, cet appel. C'est un peu comme Ésaü, il a pas réclamé, il a laissé à son frère. Voyez. Or, il avait toutes les promesses. Voilà. Non, non, les amis, il faut que nous participions au choix de saisir ce que Dieu nous propose et nous offre. Donc Ruth avait envie de devenir une femme qui puisse servir Dieu, et il l'a fait, puisqu'il a donné naissance à Obed, qui ensuite, après, a défini la lignée jusqu'à Jésus. La loi d'Israël y avait une possibilité de rachat, de pouvoir bénéficier d'une bénédiction en Israël. C'était le parent rédempteur. C'est le parent rédempteur. C'est dans la loi. Alors, bien sûr, il faut connaître la loi, il faut connaître le droit, hein. Dieu nous donne des droits. C'est la parole. Et donc, cette loi d'Israël pourvoit à ce que quelqu'un puisse, quand il va chercher dans ses généalogies un parent qui a une propriété, qui a un droit particulier, il peut devenir notre parent rédempteur. Il peut nous racheter. Frères et sœurs, autant que Ruth, que pour nous, quiconque désire être racheté doit le demander. Alors là, c'est la première leçon de ce matin. Il faut le mettre quelque part dans votre tête. La première leçon, c'est qu'il faut demander à être racheté. Vous n'êtes pas racheté par hasard. Vous n'êtes pas racheté à votre insu. C'est pour ça aussi, quand on fait des campagnes d'évangélisation, ceux qui annoncent l'évangile, ils font un appel. Ils font un appel, pourquoi? Parce que il faut qu'une personne réponde, il faut qu'elle demande à être rachetée. Ruth avait besoin de demander à la personne, donc elle est allée vers Boaz, parce que Naomi savait dans son arbre généalogique que Boaz était un parent, etc. Donc elle l'a conduit à Boaz en disant son champ il est là-bas, tu y vas, etc. Voilà, elle était conduite, mais elle devait demander. Elle n'a pas reçu comme ça. Boaz n'a pas décidé comme ça de dire, mais tiens, Ruth, elle est quelque part, etc. Non. Voyez-vous, en tant que chrétien, bien sûr, en tant qu'inconverti, il faut demander. C'est la première demande. Demander à Jésus de devenir celui qui nous rachète. Mais aussi, en tant que chrétien, on pêche tous. On pêche tous. Mais il faut aller voir celui qui nous rachète. Qui nous rachète de tous nos péchés, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Puisqu'on continue à pécher, il faut aller vers notre Rédempteur. Il faut le demander. Nous ne sommes jamais racheté à notre insu. Vous trouvez ça dans le verset 6 à 9 du chapitre 3. Je le lis. Ruth descendit à l'air, donc au champ, et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère Naomi. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, et Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Elle lui dit, « Tu as droit de rachat. » Donc elle reconnaît que Boaz est un parent de Naomi, puisqu'elle n'est pas, enfin, elle est de la famille, mais elle bénéficie d'un parent qui est rédempteur. Et elle va donc demander qu'il soit son parent rédempteur. C'est une demande. Ce qu'elle faisait n'avait rien de particulier à l'époque. Hein, attention, c'était une coutume en Israël. C'était un droit. Voilà. Ce n'est pas particulier à Ruth. Tout le monde pouvait faire ça. Comme aujourd'hui, tout le monde peut demander à Jésus qu'il soit notre sauveur. Tout le monde, la planète entière, les hommes tout entiers peuvent demander, quelle que soit leur nationalité, leur race, etc. Mais est-ce qu'ils le font ? La loi prévoit, mais nous, on doit demander. C'est là qu'on voit que Dieu nous associe à son plan par notre volonté. Il faut que notre volonté s'aligne à celle de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Dans ma vie, c'est la prière. Nous devons prier que ta volonté soit faite. Elle ne se fera pas automatiquement. Parce que Dieu nous fait libres. Alors voilà ce qu'il dit. Ruth, Boaz répondit, « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Ah, c'est incroyable. Vous voyez, déjà, elle avait sa réputation. À peine arrivée sur Israël, elle avait fait sa réputation. Quand on est quelqu'un de vertueux, que ce soit homme ou femme, les choses se sachent, le se savent. Et on ne peut pas se cacher, ni d'un côté, ni de l'autre. Et les choses se savent. Et là, il savait, et il avait entendu parler de la venue de Ruth et de Naomi. Et il lui a dit, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Donc elle était déjà partie avec un bon point vis-à-vis de Boaz. De la part de Ruth, c'était aussi simple que cela. Demandez et vous recevrez. Amen. Demandez, vous recevrez. Et c'est pour ça qu'on insiste dans cette église à la prière. Ce qu'il faut demander. Bien sûr, Dieu peut, dans sa grâce, heureusement, il nous bénit, mais il faut demander la bénédiction. En ce qui concerne le salut en Jésus-Christ, c'est aussi simple que ça. Il faut demander. Il suffit de dire, Jésus, eh bien, je te demande ta grâce, je te demande ta bénédiction. C'est ça la prière. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On le dit tous ensemble, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si nous lui demandons quoi que ce soit, eh bien, il nous acceptera, bien sûr, selon sa volonté. Le salut n'est pas plus compliqué que ça. Dans Romains chapitre 10, verset 13, eh bien, il est dit que Jésus a fait le nécessaire pour sauver l'âme de tout pécheur perdu. Et tout ce qu'un pécheur doit faire, eh bien, c'est de venir à lui dans un esprit d'humilité et demander à Jésus de lui accorder le salut. Alors, dans le verset 10 à 18, on voit que Ruth avait la certitude qu'elle serait rachetée. Voyez-vous, là aussi, il faut marcher dans les certitudes de la parole de Dieu. Parce que l'ennemi va nous déstabiliser. Oui, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas le faire, etc. Voilà. Donc, Ruth avait la certitude que ce qu'elle a demandé, Boaz va le faire. Il y a trois choses qui nous donnent des éléments pour amener à comprendre cette certitude. La première, c'est au verset 13. Boaz lui a fait la promesse. Voyez-vous ? Boaz lui a promis qu'il va le faire. Il dit, passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, alors, non, ce n'est pas Boaz, c'est Naomi. Parce qu'en fait, Naomi, bien sûr, elle a retrouvé Ruth qui est rentrée de cette rencontre avec Boaz, et elle lui a tout raconté à sa belle-mère. Et sa belle-mère lui dit, passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il lui plaît de ne pas en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Boaz lui assure qu'il utiliserait son droit de rachat. Il a promis qu'il s'occuperait de tout. Et Ruth n'avait qu'à se reposer sur sa promesse qu'il la rachèterait. Après que Ruth eut fait sa demande, elle fut rassurée par les paroles de Boaz. Boaz était aussi un homme de valeur, un homme généreux. Il a donné beaucoup, on verra plus tard qu'il a donné beaucoup, alors qu'un autre parent a refusé de le faire. Et quand on a affaire à des gens vertueux, des gens de parole, eh bien on le sent. On sent qu'ils ne jouent pas avec la vérité. Et là, Ruth a senti que Boaz disait vrai. Et elle a cru. Chers amis, Jésus, il nous a fait des promesses. Et on peut compter sur ses promesses. Vous dites amen. On peut compter sur ses promesses. Jésus n'est pas un menteur. Jésus, dans sa parole, il nous l'a laissé. Et il a dit, pas un seul iota ne passera. Que toutes les paroles que j'ai dites, elles vont s'accomplir. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ accomplit ce que Dieu voulait de lui pour nous sauver. Nous sommes purifiés du péché par l'offrande qu'il a faite de son propre corps. C'est lui qui a tout fait pour nous. Il a assumé ce que Dieu demandait qu'il soit fait, c'est-à-dire un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice de quelqu'un qui est innocent, qui donne sa vie, et c'est ce que Jésus a fait. Et il est dit que la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est assis sur le trône à la droite de Dieu. Assis sur le trône, c'est l'équivalent du métatrône. On aura un enseignement un jour là-dessus qu'a fait Jean-Marc Taubois sur le métatrône, sur celui qui est assis sur le trône à la droite de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, on peut lui demander tout ce qu'on veut. C'est un Boaz qui est céleste, un Boaz qui ne nous refuse pas. Et quand il voit qu'on est ouvert de cœur et qu'on croit à sa parole, eh bien, il l'accomplit. C'est dans Hébreux 10, au verset 10 à 14, il dit que par une seule offrande, il a rendu parfait tous ceux qui sont purifiés du péché. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que nous devenons parfaits en Jésus-Christ. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de mouvements, beaucoup, énormément, j'ai fait un peu des études là-dessus, de gens qui cherchent à vous dire comment vous pouvez être parfait, ou vous devenir parfait. Comment vous pouvez avoir l'estime de vous-même, l'esprit, voilà, bon, alors c'est pas perfection complète, mais voilà, il y a une amélioration. Voilà. Et ça grouille. Eh bien, en Jésus, vous devenez parfait, mes amis. Vous devenez parfait immédiatement, par la foi. Bien sûr, en esprit. Comme on a encore le corps et l'âme, cette perfection, elle est entachée. Et c'est là qu'il y a le combat. C'est là qu'il y a le combat du chrétien. C'est pour ça qu'il est dit, regardez leur fin. Regardez la fin du chrétien, pas le début. Oh, le début d'un chrétien, c'est formidable. Moi, j'ai rencontré le Seigneur il y a plus de 50 ans maintenant. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était incroyable. J'aurais pu aller sur l'Everest. Hein. Ah oui, immédiatement, pas de souci. Hein. Alors, vous êtes transporté, vous n'êtes plus le même, quoi. C'est formidable. Mais au bout de 50 ans, vous voyez, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous vivez pas tout le temps cette noce du début. Hein, parce que le Seigneur nous laisse la liberté de continuer à le choisir, de continuer à le servir, de continuer à marcher avec lui ou d'arrêter. Et c'est un combat. Rappelez-vous Jean-Hugues qui était ici il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Sur quoi il nous a enseigné? Non, c'est fini. Transmission. Alors ça, c'est plutôt Jérémie, transmission intergénérationnelle. Mais Jean-Hugues. Pardon? Disciple, disciple. Et la première chose du disciple, première chose, c'est la prière. Est-ce que vous vous rappelez, dans Matthieu, quand Jésus a enseigné ses disciples, enfin, quand il a parcouru la Galilée avec ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Il guérissait les malades, il faisait des choses incroyables qu'ils n'avaient jamais vues. Et qu'est-ce que les disciples lui ont demandé? Alors? Apprends-nous à prier. C'est étonnant. Ils auraient pu dire, apprends-nous à guérir les malades. Apprends-nous à faire des miracles. Okay? Non. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Et pourquoi Marie-Hélène, ils ont demandé ça, à ton avis? C'est toi qui as donné la bonne réponse. Pourquoi, à ton avis, c'est intéressant, moi j'aime bien les pourquoi. Hein, pourquoi? Parce que les pourquoi, ça amène des causes profondes. Pourquoi les disciples ont demandé « apprends-nous à prier » et pas « apprends-nous à faire des guérisons, etc. » ce que toi tu fais?
Parce qu'ils voyaient Jésus aller prier seul avec eux dans la nuit.
Voilà. Alors, je vais poursuivre ta réponse qui est juste. Pardon ? Voilà, c'est la clé de la réussite. Voilà, ça se complète les... Parce qu'ils voyaient Jésus, dans la journée, faire des miracles, mais qu'est-ce qu'ils voyaient dans la nuit ? Ils priaient, ou tôt le matin, ou enfin... Ils voyaient prier son Père. Et donc, ils ont fait la relation juste, de dire... Les guérisons, les miracles et tout ça, ça vient de sa vie de prière. Oui ? Non, vous me suivez ? C'est tout. J'aime bien parce que John Wimberg, j'ai bien aimé, qui avait des miracles incroyables, hein, un peu comme au temps de Jésus, il disait la même chose. Il dit, c'est dans la prière que vous avez le résultat de la, des miracles, etc. C'est dans la prière. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il craint le plus? Il craint la prière. Il craint la prière. Moi, j'ai 40 ans de ministère pastoral, je peux vous garantir que l'ennemi craint la prière. Il s'attaque à la prière. Il s'attaque à la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est notre relation avec le Père. On lui demande des choses et il le fait selon sa volonté. Et donc, s'il peut arrêter la prière, ben, il arrête les miracles, il arrête tout ça. Si jamais on ne prie pas et qu'il y a des miracles, on peut se poser des questions, attention. Hein. C'est pas forcément, ça ne vient pas de Dieu. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Donc, attention. S'il n'y a pas de vie de prière, eh bien, il vaut mieux arrêter le ministère parce que c'est une catastrophe. C'est pour ça que la prière est capitale. Et dans les temps de réveil, les temps de prière, quand il y a eu le réveil du Pays de Galles, ils priaient toute la nuit. Et c'était les mineurs hein, qui descendaient au fond, des centaines de mètres, etc. Il priait toute la nuit et il y avait des miracles, des prodiges qui se produisaient. Parce que la prière, c'est une relation avec Dieu où on peut lui demander à lui de subvenir et d'aller au-delà des résistances. La réalité que nous avons dans nous, c'est une résistance. Regardez, rien que quand on est debout, on a envie de s'asseoir. Pourquoi ? Parce que c'est une résistance à la gravité. On devrait tous être dans l'ISS là-haut, on n'aurait pas de gravité. Bon, je plaisante. Mais vous voyez, tout est gravité, tout est résistance, tout est la maladie est une résistance à l'activité, tout est résistance ici-bas. Okay ? Donc vous voyez, le corps et l'âme sont en phase de résistance. Et donc on a besoin de l'aide du Seigneur qui enlève ces résistances et qui nous libère. Et c'est par la prière. Boaz, on revient à Boaz. Boaz avait pourvu amplement ses besoins, des versets 15 à 17. Lorsque Ruth a quitté l'aire de battage pour le grain, le lendemain matin, elle quitte avec les promesses que Boaz allait s'occuper d'elle pour faire le rachat, mais elle emmène 15 kilos d'orge. 15 kilos d'orge. Il n'a pas renvoyé les mains vides. Il savait qu'elle avait besoin, avec Naomi, de se sustenter. Et elle a transporté ça sur ses épaules en amenant cela à Naomi. Et Ruth raconte tout ça à Naomi. Chers amis, le Seigneur donne de nombreuses preuves à ses enfants qui lui appartiennent. Et il confirme que nous sommes ses enfants, d'abord en mettant dans nos cœurs sa marque personnelle sur nous, le Saint-Esprit. Quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous atteste qu'il est là par son esprit. Il ne nous laisse pas tout seul, il ne nous laisse pas sans rien. Voyez-vous ? Aujourd'hui, nous attendons que le Seigneur revienne, mais nous avons le Saint-Esprit. Le Rédempteur, en fait, il ne laisse pas les mains vides. Il nous donne les prémices de ce que nous allons vivre plus tard. Et c'est le Saint-Esprit, c'est Éphésiens 1, verset 13. Son esprit affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Et il nous garantit des biens qu'il a réservés à son peuple. Le Saint-Esprit est un esprit saint, de sainteté. Et il nous rend saints. Si nous ne devenons pas saints, nous pouvons nous poser la question sur l'esprit qui nous habite. Mais j'espère qu'on a tous l'esprit de Dieu en nous qui nous rend saints, de plus en plus saints. De plus en plus, nous marchons de progrès en progrès. Comme par le Seigneur, on devient de mieux en mieux. Okay, un chrétien doit se bonifier, de devenir de mieux en mieux, et ça, c'est la preuve de la présence du Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi Jésus nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, comment nous habillerons-nous, etc. Ce sont les païens qui cherchent continuellement cela. Mais notre Père céleste qui est au ciel, c'est que nous avons besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera tout le reste. Ça, c'est une promesse. Donc, si nous mettons en premier, c'est pour ça que souvent, Michel le dit, moi-même aussi, pour les jeunes, eh bien, mettez à part le temps pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, même si vous avez des études, des choses comme ça, il y en a qui bossent comme des malades, sans donner au Seigneur la part qui lui est due, le dimanche par exemple, un jour de repos, etc. Moi aussi, je fais des études et j'ai bossé énormément. Mais j'ai toujours respecté le Seigneur et qu'on lui donne sa part. Et souvent, on tombe sur des sujets, on n'a pas tout révisé, mais on tombe sur le sujet voilà, qui nous convient, parce que le Seigneur conduit les choses. Il faut faire preuve de cette obéissance, chercher d'abord le royaume de Dieu et la vie juste, et le Seigneur eh bien, vous donnera tout par-dessus tout. Amen. La troisième chose, la dernière, c'est qu'il l'avait rassuré, donc Boaz, de sa persévérance dans l'action du rachat. Il a dit, ne t'en fais pas, ce sera pas simple, mais je vais m'en occuper. Et vous, c'est pas toujours simple quand on prie et qu'on attend la réponse. Hein. Donc Naomi, Ruth a prié, a demandé à Boaz, mais il devait attendre la réponse. Et pendant ce temps-là, ben, il y avait un travail qui devait s'accomplir parce que ce n'était pas le premier parent. Il fallait d'abord que Boaz aille voir le premier parent rédempteur avant que lui puisse racheter. Alors les exigences du rachat, je vais aller vite là-dessus, c'est dans le chapitre 3, verset 12 et dans le chapitre 4, de 1er à 10. Boaz devait devenir le rédempteur de Ruth parce qu'il ne l'était pas au premier degré. Il avait des exigences dans la loi, et dans la loi, le rachat ne pouvait se faire que par le premier parent rédempteur, le premier, celui qui est le plus proche, Lévitique 25-25. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ses terres, un de ses proches parents possédant le droit de rachat devra le racheter. Donc Boaz devait passer par le premier rédempteur. Et en fait, Dieu a conduit les choses. Si vous lisez le texte, je vais aller vite. C'est qu'en fait, il est allé à la porte, parce que c'est toujours aux portes que se faisaient les contrats. Il devait aller à la porte et avoir des témoins. Et ensuite, après, prendre la chaussure. C'est avec la chaussure, il se donnait les chaussures pour conclure le contrat. Et là, il a vu justement passer, comme par hasard, des hasards de Dieu qui sont prévus par Dieu. Justement, le premier rédempteur, il passait. Hop, il l'a chopé et il lui a demandé, effectivement, s'il voulait bien racheter le champ, pour que Ruth puisse bénéficier de ce droit de rachat. Et là, pour faire court, j'étais content parce qu'en fait, il pouvait bénéficier d'un champ qui allait rapporter de l'orge, du blé, etc. Voilà. Mais il y a une contrepartie. La loi disait qu'il fallait qu'il marie Ruth. Et là, il n'était pas prêt. Voyez-vous, il y avait un prix qui était plus élevé à payer que simplement le rachat et de profiter du champ. Voyez-vous ? Alors que Boaz, il a tout fait, parce que c'est un prix assez élevé. Parce qu'il fallait qu'il s'occupe de la famille, qu'il s'occupe de faire fonctionner le champ, il fallait qu'il s'occupe de Naomi, il fallait qu'il s'occupe de Ruth, etc., etc. Vous voyez, c'était une charge. Et l'enfant, d'ailleurs, qu'ils ont fait, Obed, il fallait le nourrir, etc. Vous voyez, le prix était plus élevé que simplement bénéficier de ce droit de rachat. Donc là, on voit déjà la différence entre le premier parent rédempteur et celui qui a réalisé le rachat, c'est Boaz. Et cela renvoie à Jésus. Jésus, il n'a pas calculé le prix. Il n'a pas dit, je vais les racheter, je suis fils de Dieu, je vais les racheter. Non, non. Il a payé le prix et toutes les saintes scènes, et on va le faire tout à l'heure, il nous est rappelé que Jésus a descendu de la position divine, la position humaine, et de la position humaine, il est devenu l'esclave, et il a accepté la mort, qui est la mort la plus ignominie qui existait à l'époque. Voyez-vous, il a accepté un prix absolument incroyable pour nous racheter, pour payer la dette. Il fallait que, pour payer la dette, il descende jusqu'au plus bas. Et c'est l'exemple de Boaz qui nous rappelle en avance de l'histoire, prophétiquement, ce que Jésus allait faire. La loi exigeait qu'il accepte de payer le prix demandé en totalité. Et lorsque le premier a décliné, Boaz a dit « je me mets dessus et je deviens le premier parent rédempteur ». Donc cette histoire est une belle illustration de Jésus qui nous a rachetés. Et il ne nous a pas rachetés à prix d'argent. Nous sommes rachetés dans Ésaïe 52 qui nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous étions vendus au péché et nous avons été rachetés, c'est-à-dire délivrés par le sacrifice précieux de Christ, qui était un agneau sans défaut et sans tache, qui a accepté d'aller sur l'autel et d'être immolé. Personne ne l'a obligé. Personne. Il l'a fait librement. Il l'a fait par amour pour nous. Jésus est devenu notre proche parent. C'est dans Philippiens 2, 5, 8. Il est dit, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition du serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme, il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus a accepté de payer le prix de la rançon, de notre rançon, notre dette. Il a donné sa vie comme rançon pour nous libérer de beaucoup d'hommes. C'est dans Marc chapitre 10, verset 45. Boaz dit à Ruth qu'il y a juste un problème avec son plan pour la racheter. Et il lui a raconté effectivement qu'il y avait ce premier parent. Mais il a dit, je vais tout faire pour y arriver. Et il y est arrivé. Sa persévérance, sa volonté de bénir Ruth et Naomi, eh bien, ont payé. Amen. Alors, on va conclure. Les résultats de tout cela, les résultats de ce rachat, c'est quoi? C'est que nous sommes rachetés par Jésus et nous devenons saints. Nous devenons saints. Voyez-vous, la sainteté, c'est comme l'unité. C'est que Ricardo me bassinait un peu avec ça, en disant l'unité, ça ne se fait pas, elle existe. Elle existe en Christ. Christ a fait l'unité. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut préserver l'unité dans les liens de la paix. Éphésiens 6. Il faut préserver l'unité. Voyez-vous, on a l'impression que nous, on fait des choses, on ne fait rien du tout. Jésus a tout fait. Sauf qu'il faut rentrer dans ce que Jésus a fait pour nous. Et ça, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à ce que Jésus a fait pour nous. Il a fait l'unité. L'unité des chrétiens, elle existe. Hein. Simplement, c'est à nous de préserver cette unité et de nous débarrasser de tout ce qui empêche l'unité. Ici, c'est pareil, la sainteté, Dieu nous donne la sainteté en Jésus-Christ. Sinon, c'est quoi? C'est pas un salut parfait. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Mais nous devons devenir saints. Voyez-vous, c'est le déjà pas encore du royaume hein, qui joue à tous les niveaux. C'est comme la vision du phare. Nous sommes un phare, mais nous devons devenir un phare. Voyez-vous, le royaume de Dieu, Jésus l'a amené, mais il n'a pas encore accompli. Ce sera la parousie, ce sera au retour de Jésus que tout sera parfait. C'est pour ça que l'Église est imparfaite. Elle est imparfaite parce qu'elle est faite de gens comme nous, comme moi, qui sommes pécheurs et qui, par notre imperfection psychique, dans la chair, ce qu'on appelle la chair, eh bien, amène les problèmes. Donc moi-même, je suis un agent perturbateur dans une église qui est faite de parfaits. Mais on est parfait en esprit, mes amis. On n'est pas parfait en soi. Mais notre esprit est parfait, parce que Jésus est parfait. Et plus on va vers la sanctification, vers le Seigneur, eh bien plus cette perfection va nous atteindre, nous rayonner. Et rayonner au tel point que Moïse, il rayonnait, il devait se couvrir le visage, et nous pouvons à certains moments donnés, rayonner. Le Seigneur veut qu'on rayonne de sa perfection. Vous dites amen? Vous avez envie de ça? Eh bien, c'est possible. C'est possible. Il faut simplement que notre chair, eh bien, disparaisse de plus en plus. Amen. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Une communauté de rois prêtres. Et le prêtre, celui qui va vers le Seigneur et qui, maintenant, le voile est déchiré, on peut y aller directement. Amen. Et toute la louange doit être exprimée au Seigneur, parce que c'est lui qui a tout fait. Les gens élèvent Ruth, à l'époque, parce que c'est une femme de valeur, mais ils élèvent aussi Boaz, qui est aussi un homme de valeur, un homme généreux, un homme qui a donné tout le prix qu'il avait pour racheter Ruth. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a payé le prix ultime pour nous racheter. Et à cause de cela, il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il est dit. Parce qu'il a tout fait pour nous racheter. Et nous sommes maintenant dans la position de le louer et de l'adorer. Nous allons faire à l'instant, alors que nous allons prendre la Sainte Cène, j'aurais voulu peut-être vous passer le chant tout à l'heure de ce Rédempteur pendant la Sainte Cène. C'est un chant qui parle de ce Rédempteur merveilleux. C'est un chant qui a beaucoup bouleversé, surtout l'Église en Angleterre, enfin l'Église anglaise, de ce merveilleux amour qu'il a pour nous. Il est en anglais, mais vous pourrez m'approfiter de ce chant pendant qu'on se prépare à la Sainte Cène.